I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive. I think you know we're getting down, we're getting low.
Salut à tous, bienvenue dans Entre deux notes, le podcast où on parle musique, création et toutes ces petites galères qui deviennent de belles histoires. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui intrigue souvent, le mastering audio. C'est cette dernière étape invisible mais cruciale qui donne au morceau sa touche finale. On va parler du pourquoi, du comment et surtout du pour qui. Un mastering pour vinyle, cassette, CD, streaming, tous ces formats qui n'ont pas les mêmes besoins. Et puis, on va évoquer un moment charnière dans l'histoire du son. La fameuse Loudness War et comment un groupe comme Oasis a tout compressé sur son passage. Et avec moi, comme à son habitude, Linvi. Salut Linvi, comment ça va?
Ça va très bien, PKMWT, et toi?
Bah, ça va très bien. Donc aujourd'hui, presque un épisode un peu final sur notre petite lancée sur comment composer un morceau de A à Z. Voilà, on voulait un petit peu faire ça dans le cadre du podcast, commencer par un certain nombre d'épisodes qui racontent comment nous, en tant que musiciens, producteurs, on compose une musique. Quelles sont les différentes étapes? Je pense qu'on fera encore un épisode sur la publication. Comment on publie notre musique? C'est bien de produire une musique, mais après, il faut la publier. Voilà.
Ouais, donc, effectivement.
Après ça, on sera un peu plus dans une vitesse de croisière avec ce podcast. On va plus raconter un peu notre quotidien, les étapes où on en est avec notre carrière et notre collectif aussi, Music We Trust. Alors Linvi, quelles sont tes actus en ce moment? Dis-moi tout.
Pour l'instant, mon projet est un peu en pause. J'ai plusieurs collabs qui vont arriver. Donc, mon projet personnel, j'attends un peu que diverses collabs se concrétisent. Donc, j'ai une collab importante qui va se produire aussi. Mais je n'aurais pas en dire plus pour le moment. Donc voilà, je suis focalisé sur mes différentes collabs et on va attendre un peu que ça se concrétise sur la finalisation. Et toi?
J'ai une collab aussi qui se finalise, celle que nous on fait tous les deux. Alors, on pourrait en parler plus, mais on n'a toujours pas le titre. Hein. T'avais fait quelques suggestions, j'ai toujours pas répondu. Mais on est dans cette fameuse étape du mixage. Donc, en gros, je réécoute le podcast de la dernière fois pour savoir comment mixer et puis on y revient. Voilà. Alors, on est dans cette étape-là où dernière ligne droite, mixage puis mastering. Et après, publication. Donc, on va faire toutes ces étapes qu'on a décrites lors de ces différents épisodes de podcast. Et peut-être qu'au prochain épisode, on pourra présenter ce morceau. Voilà. Et sinon, j'ai un autre morceau en préparation. J'ai pas le nom non plus. Donc, on verra quand on le publiera. Je suis aussi dans la phase de mixing et puis du mastering. Voilà, ça s'annonce pas mal. Puis, toujours en route dans le collectif, où on a accueilli un nouveau membre il n'y a pas longtemps, même deux nouveaux membres, parce qu'on n'a pas parlé de Azekeno encore.
Oui,
on voulait l'inviter à cet épisode, mais malheureusement, il avait un empêchement. Donc un petit coucou à Azekeno. Et puis un autre collègue à toi, c'était quoi son nom?
Chrome G.
Voilà, il nous a rejoint, il est un peu plus débutant. Après, on est un peu tous débutants, on va dire ça comme ça. Mais il en est vraiment balbutiement et puis il avait un projet intéressant et puis en plus il fait de la synthwave, donc on ne refuse jamais quelqu'un qui fait de la synthwave. non, en gros, je me sens un peu seul à faire de la synthwave dans le collectif, donc un de plus c'est toujours bien. Voilà, un petit coucou à toi aussi si tu écoutes ce podcast. Voilà, et puis tu seras aussi le bienvenu, un de ces quatre, si tu as quelque chose à partager, message à toi. Voilà. Ça, c'est pour les actus. Mais alors, une question fondamentale, Linvi, est-ce que le mastering, c'est cette étape qu'ont les Jedi pour devenir maître Jedi?
Sûrement. Mais oui, dans la musique, c'est l'étape de finalisation du morceau. Donc, quand on a fait le mix, on fait les derniers ajustements. Donc, historiquement parlant, c'était pour, avant d'envoyer au pressing les vinyles et le morceau, eh bien, on était simplement les derniers paramètres, les derniers ajustements pour être sûr que ça corresponde aux standards du marché et que tout aille bien. Donc voilà, c'est un peu l'étape de finalisation pour être sûr que le morceau corresponde à certains standards, certaines normes. Voilà.
Alors, tu es vachement constant dans ta définition parce que je crois que c'est à peu près ce que tu as dit la dernière fois. Dernier podcast, on a parlé du mixage, mais bah, on a dû aussi aborder le mastering, puisqu'on voulait un peu différencier les deux étapes. Et je crois que tu avais à peu près donné la même définition.
Sûrement, oui, parce que j'ai ma vision.
Mot par mot, je comparerai pour voir, mais c'est bien, tu es constant, il n'y a pas de souci. Et effectivement, c'est ce que je comprends aussi du mastering. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans, alors je fais souvent le gars qui ne sait pas. Là, cette fois-ci, je ne sais pas trop. Donc, effectivement, j'en suis encore à mes balbutiements. Je vais d'ailleurs me former d'ici le mois de septembre à une école, donc AudioCamp à Bordeaux, pour me renforcer dans ces étapes-là. Moi, j'ai une anecdote là-dessus. C'est... Alors, je ne sais pas si toi, c'est le cas, mais si maintenant je te dis, remonte 2 ans en arrière. Il y a 2 ans en arrière, tu ne faisais pas encore de la production musicale, hein, je me trompe.
Oui, ça fait un peu plus d'un an, oui.
Est-ce que le terme, alors peut-être mixing, ok, mais mastering, est-ce que c'est un terme qui te croisait, enfin, est-ce que tu avais croisé ce terme et est-ce que tu avais une notion de ce que c'était le mastering à cette époque-là?
Bah, le terme, je l'avais déjà entendu parler parce que bon, même si je ne produisais pas, je m'intéressais quand même un peu de temps en temps à tout ce qui était la composition de la musique. Je suis déjà tombé sur le terme, mais effectivement, la frontière était un peu floue entre le mixage et le mastering et pourquoi on ne faisait pas les deux à la même étape. Donc, c'était un peu flou, effectivement, à l'époque. Mais après, une fois qu'on le fait, on comprend un peu mieux l'objectif.
Ouais, alors moi, j'écoutais beaucoup de podcasts comme Sud et Sondier ou autre et je me renseignais pas mal. Mais par contre, ce terme mastering, alors j'en avais peut-être déjà entendu parler, mais il me passait à travers le cerveau comme ça. Et j'avais pas du tout de notion de ce que ça représentait, puisque en fait, j'avais déjà même pas parcouru toutes les étapes précédentes, ne serait-ce arranger un morceau complet, le mixer, etc. Quand j'étais en salle de concert et que je jouais en live, effectivement, j'avais cette notion de l'ingé son derrière sa table de mix qui mixait finalement pour ne serait-ce avoir des gains potables sur le guitariste, la chanteuse, le claviériste, le batteur. Et donc, il y avait ces étapes de mixage, hein, live. Peut-être qu'il ajustait même pendant le concert pour ajuster au niveau du public qui rentrait dans la salle et puis il fallait réajuster un petit peu en fonction de la salle. Mais le mastering, c'est pas une étape que tu fais en réalité dans des concerts live. C'est pas forcément quelque chose que tu fais quand tu fais une maquette aussi, quand tu enregistres une session DJ ou quand tu enregistres juste toi en train de jammer finalement.
Mmh.
Et donc, en fait, le mastering pour moi, c'était quelque chose de lointain et du coup, peut-être que c'était peut-être quelque chose que j'avais pas besoin d'enregistrer dans mon conscient, quoi.
Et ouais, je comprends, c'était pareil.
Hein, tu vois? Et c'est maintenant quelque chose de... C'est maintenant une étape qu'on a besoin, finalement. On le remarque. Et c'est une étape, pour moi, cruciale avant la publication. Ça, de toute manière. Alors, l'objectif du mastering, comme tu l'as plus ou moins dit, mais je vous le dis un peu plus concrètement, c'était... L'objectif, c'est de rendre le son cohérent, d'accord? Et prêt à être diffusé. Je m'arrête là, parce que diffusion, finalement, ça peut... aller sur plein de supports, mais c'est avant sa diffusion. Voilà. Et une étape qui différencie le mastering du mixage, c'est quoi, Lenny?
Le mixage, pour moi, c'est vraiment, on va mixer ces bus, ces pistes individuelles, les traiter pour que tout sonne cohérent, etc. Et alors, pour moi, le mastering, par exemple, on va le faire sur un fichier unique. Donc, hors de question de mixer des pistes individuelles. T'exportes, une fois que tu as fait ton mix, tu exportes en un seul fichier. Et après, tu fais ton mastering dessus. Donc, tu ne touches plus individuellement au track, aux pistes. Et alors, tu vas vérifier, tu vas mettre les derniers traitements pour finaliser. Donc, peut-être, par exemple, est-ce que ma track sonne assez fort? Donc, c'est le loudness. Vérifier s'il ne faut pas un dernier petit EQ pour avoir une balance cohérente pour le tout. Donc, voilà, pour moi, c'est... Une étape, c'est vraiment, on traite le morceau dans son entièreté pour finaliser l'export. Donc, c'est les derniers ajustements avant l'envoi, quoi.
Voilà.
Donc, une fois que le mix a été fait.
Donc, c'est effectivement le bounce stéréo de ton fichier qui s'appelle final 2.0.3.x. Voilà.
Oui, mix V2, final V2, final V4.
Exactement, pré-mix, master, double check, tout ça, voilà. Et c'est ce morceau-là où toi, en tant qu'artiste, tu es normalement satisfait du rendu, mais tu vas encore lui passer une couche et le mettre un peu à niveau pour qu'il soit audible là où tu veux le diffuser. Voilà. Donc, mix, c'est plusieurs pistes que tu vas ajuster entre elles. Et mastering, c'est la piste finale que tu vas relever, on va dire ça comme ça. En tout cas, que tu vas encore ajuster pour donner une touche finale. Voilà. Quelles sont les actions typiques qu'on va faire sur un master? Ou en tout cas, si je te dis mastering, qu'est-ce que tu vas sortir comme plugin ou comme effet?
Moi, j'aime bien travailler avec ADPTR Meter, qui est un plugin de comparaison AB, donc pour comparer sa piste avec plusieurs autres morceaux, donc des morceaux de référence. Et alors, on peut vérifier par exemple le loudness. Est-ce que mon morceau est assez fort? Donc, remonter le loudness, par exemple, avec un compresseur, on peut faire, par exemple. Vérifier est-ce que le morceau, en termes de fréquence, etc., est-ce qu'il est équilibré? Donc ça, c'est plutôt avec un EQ, avoir une courbe de fréquence cohérente sur la globalité du morceau. Ça peut être aussi vérifier la largeur stéréo. Donc ça, on peut travailler peut-être avec un imager ou autre. Bon, j'essaie d'éviter parce que ça peut créer des artefacts ou autres, ou des problèmes de phase. Donc moi, je préfère travailler la stéréo directement au mix. Mais si c'est pour un dernier petit ajustement, donc bien entendu, c'est pas de pousser... de créer une stéréo qui n'existe pas, mais voilà, s'il faut un tout petit peu booster encore la stéréo, ben on peut faire ça avec un Ozone Imager qui est gratuit, par exemple. Donc, il y a ceci. Puis vérifier, voilà, s'il n'y a pas de problème de phase avec Correlation Meter ou autre. Donc, si besoin, s'il y a des problèmes de phase, ben on peut corriger ça avec le sidechain sur le kick. Mais bon, tout ça, ça devrait être fait déjà au mix, normalement, mais ça permet de vérifier une dernière fois. Mais tu peux, et là, inversement, c'est que tu peux, par exemple, peut-être réduire l'image stéréo sur certains, parce que des fois la réverb ou autre, si elle est trop puissante, elle peut créer des problèmes de phase. Donc tu peux réduire avec un imager qui peut fonctionner en multiband, tu peux peut-être réduire l'image stéréo sur certaines plages de fréquence pour réduire les problèmes de phase ou les supprimer complètement. Donc pour moi, c'est un peu ces traitements là donc le but, c'est pas de faire un traitement qui est complètement destructif ou artistique. Le mastering, pour moi, c'est vraiment vérifier que t'es un peu que tu corresponds un peu au standard, donc avoir un morceau équilibré en termes de fréquence, avoir une image stéréo qui est correcte et cohérente avec ton morceau, le loudness, voir si tu atteins les niveaux de volume perçu. Donc c'est ça, le loudness, c'est le volume perçu, voir si tu atteins des niveaux suffisamment corrects ou du moins en adéquation avec peut-être le genre de musique que tu fais ou ce que tu veux. Donc pour moi, c'est vraiment les derniers ajustements, c'est pas des traitements destructifs ou des traitements qui vont être vraiment très audibles pour l'auditeur, parce que c'est vraiment, on est dans la finalisation, l'équilibre, vérifier que le tout corresponde avant l'envoi, comme tu as dit. Donc du coup, pour moi, on a quelques traitements, mais après, normalement, je pense que, en tout cas moi, c'est comme ça que je fais, j'évite d'avoir 12 plugins sur ma chaîne du master, par exemple. C'est vraiment, on essaie de mettre quelques réglages pour peaufiner.
Ah, donc voilà. Tu m'avais aussi parlé de Gullfoss, hein, c'est ça que tu utilises?
Gullfoss aussi, oui, c'est un EQ intelligent. Ouais. Bon, ça peut être aussi bien sur le mix que sur le master, effectivement. C'est un EQ intelligent qui va compenser les fréquences de manière automatique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adapte vraiment en fonction du mix. Je crois que c'est basé sur l'IA. Et ce qui est intéressant avec celui-là, contrairement aux autres outils d'IA, c'est que vu que c'est un EQ qui interagit en direct, c'est qu'en fait, il va vraiment travailler sur des fréquences précises à certains temps donnés. Et du coup, si nous, on voulait faire ça manuellement, il faudrait automatiser un EQ sur chaque fréquence. Et ça prendrait des heures et des heures de travail. Donc ça, c'est un outil que j'aime bien à ce niveau-là. Après, c'est pareil, c'est un réglage avec parcimonie. Moi, je le mets en général à 15-20% maxi. Donc, je mets vraiment un traitement assez léger. Donc, c'est pas qu'on entende une grosse différence entre le mix et le master, quoi.
Ouais.
Donc,
c'est vraiment. Oui, alors Gullfoss, c'est un algorithme, en fait, en réalité. C'est pas de l'IA en soi, mais disons qu'ils ont entraîné un algorithme sur beaucoup, beaucoup de morceaux de référence pour avoir un algorithme ultra perfectionné, qui va ajuster pour te donner, effectivement, tu peux atténuer ou renforcer soit ton master, mais aussi certaines pistes, etc. Donc, un peu booster ou un petit peu éclaircir, on va dire, mettre un peu plus d'aigu si tu as besoin, etc. Donc, très utile. Moi, j'utilise aussi ce Gullfoss en master. Et un des plugins les plus importants, c'est le limiteur, je crois, non? Ou en tout
Oui, j'allais dire
cas.
aussi, j'y ai repensé entre-temps, c'est vrai qu'il y a le limiteur aussi, donc pour être sûr qu'on ne sature pas.
Voilà.
Parce que si
Et
le morceau
puis,
sature, c'est pas bon.
voilà, pour pouvoir bien remonter un petit peu le niveau, ce qu'on discutera peut-être un peu plus tard, mais ouais, monter un petit peu le volume général ou en tout cas perçu du morceau, qu'il soit dans certains standards. Ok. Donc oui, effectivement, moi, la stéréo, j'y touche moyen-moyen dans le master. Hein. Au pire, ce que j'essaie de faire, puisque quand on est un producteur de A à Z et qu'on a encore moyen de toucher à la phase mix, voire à la phase compo, mais là, normalement, on est déjà loin. On revient vite à la phase mix, on dit ok, je réajuste vite ça, j'enlève un peu de stéréo ici ou j'en rajoute là, ou je gère un peu le panning différemment et je reviens dans ma phase mastering après. Si on peut encore le faire, tant mieux, ça évite de détruire le truc.
Bah, le problème, c'est qu'en fait, normalement, si un mix est bien fait, il n'y a pas besoin de faire grand-chose sur le master. Maintenant, le problème, effectivement, c'est que quand tu es débutant, ben, vu que tu t'entraînes, tu peux foirer ton mix et tu te rends compte qu'à l'étape du mastering, que par exemple, tu as une mauvaise balance ou autre, et du coup, ben, tu reviens, tu fais plusieurs allers-retours. Donc, c'est un peu, je crois que c'est normal de peut-être de repasser à l'étape du mix quand on est débutant, au début, parce qu'on apprend. Mais effectivement, normalement, une fois que si tout le mix est bien fait, comme tu dis pour moi, la stéréo, moi c'est pareil, et c'est ce que Propa m'avait dit aussi, parce que je prends des cours avec lui, cet artiste, c'est qu'en fait, la stéréo, tu peux le travailler au mix. Donc, normalement, si tu l'as bien travaillé au mix, tu n'as presque rien à faire au master. Si au master, tu te rends compte que tu n'as aucune stéréo, créer de la stéréo artificielle avec un imager wall, ça va te créer des artefacts et ce n'est pas bon. Donc, du coup, c'est bien quand c'est pour juste un tout petit peu ajuster. Mais maintenant, si t'en es à faire des traitements, ben justement, des traitements un peu destructifs et des traitements assez lourds, donc tu vas mettre l'imager stéréo pour augmenter la stéréo, tu vas le mettre à 40-50%, ben non, là, effectivement, c'est que tu as foiré ton mix. Et donc, il vaut mieux se dire, je vais m'arrêter là, je vais repasser à l'étape du mix, je vais corriger ça, et après, je vais repasser au master. Donc, normalement, le master, encore une fois, c'est vraiment des traitements très légers.
Ok, tout à fait. Maintenant, on parlait avant de mastering, ou en tout cas de cette étape qui servait historiquement à placer ta musique sur des supports physiques. Supports physiques, et on en a déjà parlé dans le dernier podcast aussi, qui ont des limites, tout simplement physiques aussi, hein, c'est-à-dire au niveau qualité, mais aussi au niveau bah, comment est retranscrit le son. Une des images les plus simples à comprendre, c'est que ben, sur un vinyle, il y a des sillons. Ces sillons, c'est une aiguille qui parcourt ces sillons. Et une aiguille, bon, ben, elle a des capacités de suivre un sillon tel que, ben, un exemple classique, c'est si tu as trop de basse sur un morceau, ben, tu peux avoir l'aiguille qui saute. Donc, qui retransmet pas finalement ce que tu as besoin de retransmettre au niveau du son. Donc ça, c'est une des limites physiques qui est la plus facile à comprendre. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a la qualité maximum que peut contenir un support, la dynamique, hein. Est-ce qu'elle peut passer du moins fort au plus fort et qu'elle le retransmet correctement? Et ça aussi, en fonction de la qualité du matériel qu'il y a derrière, parce qu'une platine vinyle peut avoir la meilleure platine vinyle à 50 000 euros. Et la petite platine vinyle rose fluo que tu as dans la chambre d'enfant quand t'es, voilà, elles n'ont pas les mêmes capacités aussi de retransmettre la musique. Donc
Oui,
je pense
mais de
que
ce que j'ai lu, c'est qu'effectivement, c'est qu'une cassette ou un CD ou un vinyle peuvent avoir besoin d'un mastering spécialisé, enfin, par
c'est
exemple,
ça.
surtout dans le cas du vinyle, parce que si tu fais un master classique pour le streaming et le CD et qu'après tu le transposes bêtement sur un vinyle, ça peut rendre pas très bien et ça peut nécessiter un mastering spécial parce que ça n'a pas les mêmes, comme tu dis, les mêmes caractéristiques, les mêmes capacités techniques.
Tout à fait. Moi, dans mon exemple, bah, j'ai pressé un vinyle pour mon EP de l'année dernière. Je suis passé par Elastic Stage, qui est spécialisé là-dedans. Je leur ai filé ma musique, et puis c'est eux qui l'ont remasterisé derrière pour que ça colle. Voilà. Donc là-dessus, moi, j'ai pas eu de difficulté. Et puis c'est vrai que le rendu était nickel, hein, j'ai pas eu de problème particulier. Les vinyles marchent bien, en tout cas. Donc voilà.
Ouais, ça dépend des
Donc.
morceaux après. Mais
Ouais,
après,
c'est ça.
l'idée, on reste toujours dans la finalisation. Donc, en gros, si on change de support, il est hors de question de refaire tout le mixage, etc. Donc le mixage, c'est le mixage, on n'y touche pas, c'est la cohérence du morceau. Le mastering, vu que c'est vraiment plutôt pour être sûr que ça correspond aux caractéristiques, on peut faire juste le mastering qui sera différent pour le vinyle ou pour la cassette. Mais c'est vraiment juste cette étape-là qu'on refait, c'est pas le mixage. C'est pour ça que c'est différent, le mixage c'est vraiment propre au morceau. Mmh. Tandis que je dirais qu'effectivement le mastering, ça peut être à prendre en compte en fonction de l'audience, de la target, de l'endroit où on va l'envoyer, donc par rapport en loudness encore une fois, ou les limitations techniques. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment l'étape qui est plutôt dédiée pour la destination, alors que le mixage, on reste dans le cadre du morceau, et ça on ne refait pas à chaque fois par contre, normalement.
Okay. Ouais. Puis aussi, les soucis de vitesse dans le vinyle, c'est assez drôle, des fois... J'ai du mal en fait à m'y remettre, je sais que ma femme utilise beaucoup la platine vinyle. Et quand tu mets un vinyle, bah, tu dois aussi gérer un petit peu la vitesse à laquelle il est lu en fonction du vinyle.
Okay.
Et des fois, elle écoute mon vinyle et puis je l'entends et je me dis, mais waouh, c'est pas du tout la musique que je me souviens, que j'ai écoutée en boucle dans ma tête, parce que bah, elle l'a écoutée avec peut-être une variation différente. Donc c'est assez particulier, le vinyle. Et c'est toujours difficile de se dire, ok, je vais presser un vinyle pour voir si mon mastering va bien, et puis après, j'ajusterai en fonction. Tu vois. En général, quand tu envoies ton vinyle ou ta track pour être pressé, ben, à la limite, celui qui le presse, ben, il peut encore l'écouter et puis l'ajuster.
Ouais.
Mais une fois que c'est fait. Hein. Surtout, bon, moi, j'ai de la chance avec Elastic Stage, donc tu peux presser les vinyles à la demande, c'est on demand. Mais certains, ils vont te dire, bah, nous, on te presse, je sais pas moi, 1000 d'un coup, 500 d'un coup, et puis tu dois aller commander des 500 d'un coup. Hein.
Ça, c'est toujours le problème avec l'ancienne gestion des stocks. Donc, tout ce qui est le printing on demand, ça a changé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet qui pourrait être intéressant pour notre podcast.
Ok, bah, la cassette, pareil, hein, c'est un format, je pense que, je sais pas si tout le monde a déjà écouté une musique sur une cassette, mais en tout cas, on sent effectivement le son beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de pertes sur une cassette. La bande de fréquence est beaucoup plus serrée. On a des bruits de fond assez élevés. On a les bandes magnétiques qui s'usent aussi, hein, beaucoup. Et on a un type de bande aussi, ça je ne savais pas, mais il y a différents types de bandes magnétiques avec différents matériaux, en fait, qui vont mieux restituer ou moins bien restituer le son. Sans parler du support cassette réinscriptible, hein. Souvent quand tu as acheté des cassettes et que tu enregistrais, je sais pas, ta musique depuis une radio, puis ensuite tu l'as enregistrée sur ta cassette, bah autant te dire que la cassette qui a été réécrite plusieurs fois, elle n'a pas la même qualité que celle qui est enregistrée qu'une seule fois et qui avait qu'une seule track dessus, on va dire. Donc il y avait toutes ces choses là qui font que bah tu devais aussi, je pense, adapter ton master pour rentrer dans ce format et prendre en compte le bruit de fond ou la granularité que tu vas obtenir avec ce format-là.
Mmh.
Pour peut-être entendre les petites subtilités. Tu avais mis un petit instrument en fond là, qui s'entend à peine, bah, il va plus s'entendre du tout. Quoi. Donc peut-être un peu relever certains niveaux ou peut-être le rendre plus aéré, le mix, ou plus bright. Quoi. Voilà, le support CD, bah, lui, on est déjà dans une qualité un peu plus grande, mais encore, hein, y a aussi des contraintes au niveau... on connaît hein, le fameux 16 bits 44 kHz.
Voilà.
Qui fait que ben, souvent, c'est un petit peu maintenant la référence de se dire bah, c'est à ce niveau-là ou avec ces paramètres-là qu'on va sortir un wave, par exemple, un fichier wave. Mmh. Mais c'est toujours bien de le sortir avec un petit niveau de qualité un peu plus élevé. Mais ça, c'est un autre débat. On n'a plus les contraintes mécaniques, puisque là, c'est 100% numérique, hein, tout simplement. Et c'est ce qui a commencé à pouvoir... Ben, c'est là où on a pu commencer à monter un petit peu, on va dire, le volume général des mix qu'on envoyait. C'est juste.
Mmh. Oui.
Voilà. Là, je vois risque de clipping numérique. 0 dBFS. Tu peux m'expliquer ça?
En fait, le problème, c'est qu'en analogique...
Ouais.
On pouvait enregistrer, on peut dépasser certains niveaux, et ça donnait une coloration, ça avait une distorsion qui était quand même, qui donnait certaines couleurs, donc on pouvait avoir une distorsion voulue, donc l'analogique à ce niveau-là avait une plus grande tolérance. Le problème, c'est qu'en numérique, dès qu'on passe le zéro, c'est une valeur absolue, dès qu'on atteint le zéro, qu'on le dépasse, bah, le problème, c'est que c'est une distorsion, mais c'est une distorsion numérique, c'est tout carré, c'est très désagréable. C'est pas une belle distorsion, c'est pas une distorsion qu'on veut. Donc du coup, c'est pour ça qu'on met effectivement le limiteur pour s'assurer qu'on ne dépasse pas. Donc en général, on met juste avant le zéro. Donc on met en moins 0.1, en moins 0.3. Ça dépend. Donc il y en a qui préfèrent mettre en moins 0.3 des BFS pour être sûr d'avoir une marge au cas où le limiteur dépasse quand même, qu'il ne sature pas directement. Donc voilà, on évite à tout prix de dépasser, d'atteindre le zéro, qui est vraiment une valeur absolue en numérique et sur laquelle ça sature. Et ça, il ne faut pas saturer du tout. Donc c'est le rôle du limiteur à ce niveau-là, donc qui va venir, qui est comme un compresseur, mais plus agressif. Donc il va vraiment écraser net tout ce qui dépasse au-dessus de la valeur qu'on lui aura mis, que ce soit moins 0.1.1 ou 3. Et donc ça, et voilà, il faut faire attention avec ça.
Ok. Ça marche. Et puis c'est ce qu'il y a plus ou moins à cette étape-là, on va dire, de notre histoire contemporaine, qui a démarré ce qu'on appelle une loudness war. Alors, c'était quoi dans les années 90?
Oui, ça, je ne peux pas dire exactement, mais je connais un peu le sujet. Mais
voilà,
l'année où ça a commencé, je ne sais pas.
Justement, quand le format CD a commencé à être popularisé, même s'il y avait encore des cassettes un peu partout. Vinyle, c'était quasiment plus le cas, on va dire. Sauf pour les amateurs, qui en achètent toujours encore aujourd'hui. Mais quand le format CD s'est popularisé, et même si cette loudness war a peut-être même commencé dans les années 40, c'était vraiment avec un morceau assez phare, en tout cas un groupe assez mythique qui était Oasis, avec Morning Glory, qui apparemment a entamé cette loudness war avec un morceau dont le RMS tourne autour de moins 8 dBFS.
Oui, déjà pour l'époque, c'était déjà pas mal pour un morceau en plus de rock, enfin de rock pop.
Et on peut voir des fois certains exemples, si vous prenez, il y en a qui ont fait l'exercice de prendre par exemple des tracks qui étaient originaires des années 60 et qui ont été remasterisés avec le temps. Je sais pas, moi je prends un exemple des Beatles ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure de la sortie dans le temps, des ressorties, des rééditions, des remasterings, on voit la courbe sonore qui se transforme en parpaing de plus en plus.
La question, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on essaie d'avoir des valeurs plus hautes ?
Oui, je vais expliquer. C'est le cœur de la loudness war, bien entendu. Mais disons, voilà, ça a commencé avec Oasis. On le voit à travers l'histoire sur une même track. Voilà. Et toi, tu me dis, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours un morceau plus fort ?
C'est ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est dans la perception psychoacoustique, c'est que c'est un truc très sérieux. Donc en fait, bêtement, quand le volume perçu, donc on parle, parce qu'il y a encore plus une notion entre le volume réel et le volume perçu, parce que des fois, dans certaines conditions, un même son peut nous paraître plus fort que ce qu'il n'est vraiment. Donc ici, on parle vraiment dans le volume perçu. Donc en fait, plus un même son est fort en termes de volume perçu, plus ça nous paraît mieux. Donc en fait, on prend la même track, la même chanson, on va la jouer plus fort, et inconsciemment, on va trouver que la track a été jouée plus fort et mieux. C'est pour ça que dans les clubs, on pousse la musique à fond. Pareil, dans le cinéma, il y a aussi le fait qu'ils veulent essayer de retranscrire un peu le... Il y a des sons qui peuvent être très très forts, donc parce qu'ils veulent retranscrire un peu cet effet de réalité entre la différence des sons faibles et des sons forts, mais au cinéma, c'est pareil, le son va très fort. C'est pas pour le plaisir de casser les tympans où il y a des pubs aussi à la télévision. On écoute, on regarde une série, tout va bien. Et puis après, tout d'un coup, il y a le passage pub et là, on entend que ça gueule. C'est parce qu'en fait, on a l'impression que c'est mieux et ça retient l'intention, en fait. Donc du coup, une fois qu'on s'est rendu compte de ça, tout le monde, on a commencé à s'intéresser à ça. Et après, c'est là que le loudness war a commencé. C'est qu'on s'est dit, si les gens apprécient mieux quand c'est fort, on va essayer d'augmenter le volume le plus possible. Quoi. Donc, et aussi par rapport aux autres, parce que le loudness war, c'est un peu la concurrence entre les autres morceaux. Il faut que je sonne plus fort que mon voisin pour que moi, je capte l'attention. Et donc, c'est là que c'est parti dans ce concept de war, de guerre. C'est qu'en fait, chacun veut sonner plus fort que son voisin. Et donc, du coup, c'est que la tendance a fait qu'on est monté de plus en plus dans des tracks, des morceaux qui sonnent de plus en plus fort.
J'entendais parler de moins 3 dBFS, c'est juste ?
moins 3 dBFS, bah, ça dépend. Après,
certains morceaux actuels, peut-être vraiment ça... au pic de...
Oui, c'est possible. Mais après, je crois que ça dépend aussi d'une question de genre, parce que tu as des morceaux qui ont besoin d'une grande dynamique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu augmentes le loudness, c'est que tu dois sacrifier un peu la... Tu dois couper un peu la dynamique, parce que sinon, tes sons forts, l'écart des sons faibles et des sons forts vont faire que tu ne peux pas compresser la dynamique pour gagner tes décibels. Moi, je pense que ça dépend des genres, mais après, si on prend juste le DM, donc le genre électro un peu généraliste, je crois que j'ai cru voir que pour l'année passée, ça variait entre moins 6 et moins 9, mais que la tendance était à la hausse. Maintenant, après, effectivement, je pense que dans certains genres, ou aussi pour certains artistes qui ont vraiment voulu pousser le truc, bah, effectivement, il y en a, on peut être à moins 6, à moins 4, à moins 3, donc ça dépend un peu du genre aussi, parce que voilà, encore une fois, il y a des genres qui doivent garder une certaine dynamique, donc je vais prendre l'extrême inverse de la musique classique. La musique classique, en général, le loudness général sera assez faible, parce qu'en fait, la musique classique, il y a besoin d'avoir une grande dynamique, donc une grande différence entre les sons forts et les sons faibles. Donc, on peut avoir des grosses intonations avec les instruments avant, par exemple, et puis avoir un tout petit violon qui joue en fond, comme ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la musique classique. Inversement, quand on va dans la musique un peu plus industrielle ou drum and bass ou autre, où
c'est... ça sature, on veut que ça...
Voilà,
ça
on veut que ça tape, ça tape. Et alors là, il y a pas beaucoup... Là, on s'en fout un peu de la dynamique, parce que le but, c'est d'avoir un gros pâté bien nerveux qui tape. Donc du coup, tout le long, parce que ça, c'est des morceaux qui sont plutôt nerveux. Donc et là, bah, là naturellement, de manière générale, bah, les morceaux de drum and bass, par exemple, vont sonner plus fort que des morceaux house un peu chill, qui eux-mêmes vont sonner quand même plus fort qu'un morceau de musique classique. Donc voilà, ça, je crois que les genres jouent beaucoup aussi. Et aussi, le morceau lui-même. Est-ce que je veux que mon morceau sonne plus fort? Ou est-ce que pour ce morceau-ci, j'ai besoin de nuances dans la dynamique? Est-ce que, et qu'est-ce que je fais? Parce que ça peut être un choix aussi, tu vois. C'est que des fois, tu peux sacrifier ta dynamique pour avoir du loudness plus élevé. Donc, ça peut être un parti pris aussi. Donc, il y a une certaine... On va dire qu'il y a des tendances qui se dégagent selon les genres, selon les trends, le moment, etc. Parce que la loudness war est toujours un peu en cours, on va dire. Mais après, ce n'est pas forcément une obligation en soi, parce que voilà, un artiste, je pense qu'un artiste, il peut prendre la décision, le parti pris de dire que voilà, bah, ça, ce morceau-là, il sera à moins 9. Et puis voilà. Enfin, moi, j'ai déjà comparé en téléchargeant directement les morceaux depuis Beatport, donc sur la source officielle. J'ai déjà téléchargé certains morceaux. Moi, par exemple, j'aime bien Paul Kalkbrenner. J'en avais montré même à Zekeno, qui était étonné. Paul Kalkbrenner, qui fait quand même les finales à Tomorrowland ou autre. Si tu regardes ses tracks, il y en a beaucoup. Il y en a qui sonnent à moins 6 dBFS, mais il en a à moins 9, voire moins 12, certaines, qui sont un peu plus calmes, etc. Où tu as plus de nuances, elles sont à moins 12 et l'UFS. Je crois que lui, il s'en fout un peu, tu vois. Il s'est dit, de toute façon, moi, je veux que ma track, elle ait plus de dynamique. Donc, je vais pas faire du moins 6 pour faire du moins 6, pour faire plus fort que mes voisins. D'accord. Donc, je crois qu'il y a toutes ces notions-là. Donc, il y a vraiment une différence entre le choix artistique et aussi un peu les tendances du moment et les genres qu'on fait. Donc, voilà, c'est un peu à voir et à tester. Donc, c'est vrai que, pour résumer le tout, c'est vrai qu'il y a une tendance qui dit que plus c'est fort, mieux c'est. Maintenant, je pense qu'aller à du moins 3 pour aller à du moins 3, juste pour être plus fort que les autres, si c'est fait de manière non raisonnable, parce qu'on veut juste taper à du moins 3 pour dire qu'on tape à du moins 3, mais qu'il n'y a pas d'autres raisons spécifiques, je trouve ça un peu dommage. Je pense qu'il faut faire un peu au feeling de ce que nous, on veut par rapport à l'équilibre dynamique et le loudness et par rapport aux autres morceaux, quoi. Donc, je crois que là, il y a quand même un aspect, il y a une tendance, mais je crois qu'il y a quand même encore une grosse part de choix artistique à faire là-dessus.
Alors, c'est rigolo, je parlais avant des années 40, et apparemment, dans les années 40, il y avait des premières demandes pour presser des vinyles un peu plus forts que d'autres, à cause des jukebox qui devenaient populaires, et pour sortir un peu du lot. Alors, l'astuce, c'était, viens, je masterise un chouïa plus fort que le voisin, et comme ça, quand ma musique passe dans le jukebox, elle sonne plus fort, peut-être ça entraîne plus les gens à danser, ou... Peut-être que j'ai plus de succès. Et ça me fait vachement penser à nos plateformes de streaming actuelles où tout le monde écoute un peu en boucle les playlists random, on va dire. Et que certains artistes se disent, moi, je vais mettre ma track chouïa plus fort. Globalement, j'entends, puisque de toute manière, le niveau de sortie de Spotify est plus ou moins contrôlé. Mais paraître un petit peu plus dense ou un peu plus... enfin avec moins de dynamique justement, pour paraître à l'oreille plus, bah, plus fort, peut-être sortir du lot et se dire « Oh tiens, je vais m'arrêter là » et puis regarder quel track, de quel track il s'agit et peut-être la liker ou la disliker. Mais en tout cas, réagir sur le morceau qui apparaît dans notre casque. Tu vois. Donc c'est un petit peu ça aussi. Moi, personnellement, je ne fais pas trop gaffe à ça. Je fais comme tu fais aussi. Je compare à des tracks de référence. Souvent, je compare à mes autres tracks à moi pour garder une cohérence sur mes morceaux tout au long de l'année, pour que si je fais un EP finalement ou un album, bah, j'ai à peu près mes morceaux qui s'écoutent bien. Et là, ça rejoint une autre utilité du mastering, n'est-ce pas ? C'est bah, de garder une cohérence entre différents tracks dans un même album. Voilà. Alors, ce que je fais moi, ce que je viens de dire, c'est que quand je sors un single, je me base sur le single précédent pour le masteriser. C'est peut-être pas forcément utile sur le moment, sachant que si on garde nos fichiers de référence, ou en tout cas notre stéréo de référence, ou même notre mix d'avant, on peut très bien se dire, au moment où on sort notre album ou notre EP, on peut refaire le remastering à ce moment-là, et puis refaire la cohérence entre les différents morceaux à ce moment-là. Donc, on disait Loudness War, juste, je vais encore finir sur ce sujet-là. Donc, c'est dans ce morceau-là que ça a un peu commencé au niveau moderne, hein, au niveau de la musique un peu contemporaine. Donc, c'était en 1995 avec Morning Glory. Et l'anecdote, c'était que certains vinyles d'Oasis, puisqu'ils faisaient encore des vinyles, ont dû être remasterisés parce que, ben, au niveau du support du vinyle, ben, ce morceau passait pas parce qu'il était un peu trop fort. Voilà. Voilà, voilà. On a parlé un petit peu de tous nos plugins qu'on utilise, nous. Il y a aussi un service, des services qui existent, qui permettent de masteriser de façon automatique. Alors moi, je sais qu'à l'époque où j'ai commencé à publier mes premières tracks, ben, j'avais choisi le distributeur qui s'appelle Lander, qui lui, en fait, sa particularité, c'est qu'il propose ce service-là de master automatique. Donc toi, tu as ta maquette, on va dire, hein, on parle encore peut-être de maquette. C'est-à-dire que tu as ta piste stéréo, que tu es à peu près content, que tu as réussi à enregistrer en direct, tu as un peu fait les niveaux, tu as un peu mis les effets. Tu le mets sur Lander, le Lander, il te le prend, il te passe une moulinette dessus, tu lui dis à peu près quel genre de musique c'est, et il va te pondre un master. Toi, tu as déjà essayé ces services automatiques ?
Non.
Pas du tout. Très bien.
Je pense que de principe, pour moi, il y a déjà un truc qui ne va pas, donc je n'ai même pas essayé. Je crois que le seul truc que j'ai essayé, c'était Ozone Assistant, qui est pareil, mais ce n'est pas en ligne, c'est en local. Hein,
ouais.
C'est le même principe, c'est avoir un mastering automatique. Bah, après, moi, mon avis là-dessus, c'est que ça peut être bien, ça peut peut-être être mieux que pas de master du tout, ne fût-ce que pour avoir son morceau qui soit un peu relevé en termes de loudness et pas avoir son morceau, comme c'est souvent le cas quand il n'y a pas de masterisation ni rien, ni de compression au niveau du mixage, c'est que les gens ils disent « c'est marrant, quand je le mets sur mon téléphone, ça a l'air tout bas comparé aux autres ». Mais après, voilà, se dire, je ne suis pas convaincu que ça arrivera, en tout cas à l'heure actuelle, ça peut remplacer un vrai bon mastering parce que ce n'est pas dédié au morceau. Et bon, je veux dire, s'il y a des ingénieurs du son qui sont payés pour ça, c'est que c'est quand même une raison. Donc voilà, je pense que ça peut dépanner au début. Mais bon, est-ce que c'est la solution que je préconise ? Je ne sais pas, on va dire que ça le mérite d'exister. Mais voilà, je n'ai pas eu l'occasion de tester, mais j'ai juste testé avec Ozone Assistant. On va dire qu'il fait peut-être 2-3 trucs corrects, mais il y a beaucoup de trucs qu'il ne fait pas très bien non plus, parce qu'il applique selon un profil généraliste, comme toi tu dis avec le genre du morceau qu'il faut indiquer à Lander. Donc c'est un peu généraliste et ça ne correspond pas forcément pour tout. Donc voilà, est-ce que c'est mieux, est-ce que ce n'est pas bien ? Il y a des trucs qui font bien, des trucs moins bien. Donc ça peut dépanner au début, mais bon, je ne pense pas que tu peux espérer un master de qualité avec ça, quoi. Mais bon, si tu n'as rien d'autre, pourquoi pas ? Je sais pas.
Ouais, alors moi j'avais testé, comme je t'ai dit ça au début, je suis très vite revenu en arrière. Bon, maintenant j'utilise plus Ozone, effectivement, en mode assistant. Alors l'avantage d'Ozone en bout de chaîne, c'est que ben, déjà il te propose quelque chose, mais après tu peux entièrement le déconstruire et le reconstruire.
Il y a ça aussi, tu peux modifier au moins.
Voilà, tu peux modifier, tu peux ajuster, tu peux surtout aussi ben, enlever un petit peu du dry wet sur les effets qu'il met. Donc tu peux te dire, ok, ah oui, t'as mis cet effet-là, mais il est assez. Hop, je réduis un peu, mais il est bien comme ça. Ou par exemple, j'enlève les EQ parce que je mets quand même du Gullfoss et puis Gullfoss, il va quand même bien m'atténuer ou me refaire un peu l'équalisation. Donc j'ai pas besoin d'encore avoir un EQ derrière qui me fait encore d'autres trucs. Il va un peu me corriger des fois des spatialisations, des choses comme ça, mais ça, pareil, je le descends beaucoup. Mais c'est surtout les paramètres de limiteur ou de compression que je vais laisser un petit peu aux zones faire. Comme ça, lui, il va un peu m'ajuster cette fameuse loudness sur mon morceau pour qu'il corresponde à ce que, finalement, les plateformes, en tout cas, ce que je voudrais que les plateformes obtiennent, quoi. Voilà.
C'est un peu ce que j'ai fait aussi, ouais. C'est qu'au début, j'utilisais sur mon premier morceau qui n'est plus publié, j'avais utilisé Ozone complètement. Puis après, j'ai transitionné en enlevant de plus en plus de trucs et en faisant plus en plus de trucs manuellement moi-même. Mais voilà, parce que c'est pareil, Ozone, c'est vrai qu'Ozone, au moins, on peut le modifier, Ozone Assistant. Maintenant, il fait des trucs bizarres quand même, hein, parce que moi, je trouve qu'il y a des paramètres qui étaient vachement agressifs, voire ouais, destructeurs. Donc pour le mastering, c'est pas top. Et en plus, il fait des trucs bizarres parfois, parce que vu que c'est automatique, je sais pas comment. Mais voilà, en fait, par exemple, moi, j'ai déjà vu, il a augmenté l'image stéréo sur la basse, par exemple. Alors que normalement, toi, tu veux ta basse en mono, sinon ça rend les gens malades, ça perturbe l'oreille interne. Normalement, c'est le kick bass mono, et je l'ai déjà vu mettre le module stéréo, enfin le module imager pour la stéréo, je l'ai déjà vu, parce qu'il peut le faire en multibande, donc sur des plages de fréquences différentes. Je l'ai déjà vu augmenter la plage de fréquence en dessous de 80 Hz, je l'ai déjà vu augmenter la stéréo, tu vois, c'est bizarre, enfin... Il y a des trucs comme ça qu'il fait, c'est quand même pas top non plus. Donc, tu vois, c'est pareil, peut-être ça peut donner un point de départ pour certains, ceux qui ne savent pas trop par où commencer, et voir peut-être les différentes étapes de mastering, ça peut peut-être donner c'est un point ça. De départ. Mais voilà, quoi, il faut surveiller quand même, et je pense que ce n'est pas une solution magique. Parce qu'encore une fois, ça a le mérite peut-être d'exister pour les débutants, mais après, ça remplacera encore une fois pas forcément le travail d'un vrai ingé son ou de quelqu'un, d'une personne plus aguerrie, quoi.
Ouais, tout à fait. Pour moi, en tout cas, là où Lander était assez intelligent, parce qu'ils l'ont fait dès le début, ça. Hein. Ils ont tout de suite proposé ce service. Mm-hmm. Et c'est par ce service, après, qu'ils proposent le reste. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, écoute, si tu veux utiliser mon mastering automatique, tu payes un petit abonnement. Et puis, petit abonnement, en fait, si tu veux, ils te permettent de te distribuer aussi, tu vois. Donc, en fait, ils sont un peu rentrés comme ça dans le game, plus ou moins, hein. Et pour moi, il y a deux effets à ça. C'est que ceux qui ne savent pas masteriser, ben, ils peuvent utiliser cet outil et après se distribuer par Lander. Mais à Lander, ça leur permet aussi de se dire, ouais, mais attends, les gens, ils viennent avec leur track ben, ou leur maquette, qu'ils veulent se publier un peu partout, ben, au moins, en fait, eux, ce qu'il y a, c'est quand tu poses un fichier chez eux, ils vont l'analyser un peu. Ils vont dire, bon, gars, il va falloir que tu passes par une étape quand même de mastering parce qu'on ne va pas te le publier comme ça. On veut quand même qu'il y ait une certaine, on va dire, une qualité minimum d'un track qu'on va publier. Et donc, ils vont te proposer... En fait, très vite, tu poses ton morceau, ils vont tout de suite te proposer le mastering. Mmh. Alors moi, je désactive cette étape, histoire que moi, je propose mon mastering, etc. Mais j'imagine que pour eux, ça leur permet de pas juste prendre n'importe quel morceau et le publier, et puis d'avoir collé une étiquette de « nous, on publie n'importe quel artiste qui publie ses tracks à poil, sans mastering, sans rien. » Donc, ils obligent un peu cette étape-là. Je pense que pour eux, c'est un peu un gatekeeper qualitatif minimum, on va dire. Et en même temps, un service qui intéresse énormément d'artistes qui ne savent pas, en fait, qui ne connaissent pas comme moi. Là, je te disais, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout cette étape. C'est limite, tu sais, tu vas prendre ta track, tu vas un peu l'équilibrer, tu la bounces, elle s'écoute vachement bien sur tes enceintes puisque t'as mixé sur tes enceintes depuis le début, hein, tu fais pas gaffe, tu balances ça et puis paf, là t'as Lander qui va te rappeler, ah tu veux pas un petit mastering, il te le propose tout de suite, tu peux juste faire play, hein, direct, et là tu dis, ah oh, ça sonne carrément mieux, et puis tu fais next, en gros, hein, c'était ça, je pense que c'est ça l'étape qu'il propose. Mais bon, je suis très vite passé effectivement à Ozone, et depuis Ozone maintenant j'enlève de plus en plus d'options. Et je rajoute mes propres chaînes, on va dire. Et je renforce un peu plus la phase mix aussi, effectivement. Mais ça sera un sujet que je vais beaucoup plus aborder ou en tout cas creuser d'ici ma formation en septembre, où je vais avoir 2 semaines intensives.
Avec Leroy, entre autres, qui est un ingé son connu. Donc, c'est vraiment une formation qualitative. Donc là, tu vas vraiment prendre beaucoup d'XP en l'espace de 2 semaines.
Je vais prendre beaucoup d'XP, effectivement. Ça va être bien. Donc, on verra tout ça. Après, comme tu l'as dit, est-ce que c'est une étape obligatoire pour un producteur de savoir masteriser ? Bah, effectivement, c'est bah, une étape intéressante à faire, mais pas obligatoire.
Oui et non. Après, le problème, effectivement, c'est que tu peux avoir parti pris, comme certains artistes. Moi, je suis compositeur et j'ai un ingénieur du son qui s'occupe du mastering et voire du mixage aussi. J'en connais plusieurs qui le font. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens de se payer la gestion en question, quoi.
Voilà.
Donc,
tu peux t'en payer un sur Fiverr pour 50 balles, hein, y a pas de souci.
Le problème, c'est qu'on a encore une fois, on retourne encore la même question comme on a déjà pu aborder un peu vite fait dans les autres podcasts. C'est qu'il y a une grosse concurrence. C'est que bon, tu n'es pas obligé de faire le mastering en soi. Et bon, si tu fais un morceau qui est clean dans la composition et qui est bien mixé, ben, effectivement, le mastering peut être limite optionnel. Vaut mieux pas de mastering qu'un mauvais mastering, je dirais. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es mis face à d'autres artistes qui, eux, peut-être masterisent le morceau et en plus le font bien, ben, tu as déjà t'as une perte d'avantage comparée aux autres, quoi. Donc, le problème, ce n'est pas forcément obligatoire en soi. Comme encore une fois, si le mixage est bien fait, ça peut passer. Maintenant, ça peut être un peu con parce que c'est un point où tu vas être en désavantage par rapport à ceux qui le font.
Alors, oui, de ne pas faire le mastering. Mais j'entends, oui. Est-ce qu'un producteur est obligé de savoir masteriser? Comme tu le dis, il y en a beaucoup qui préfèrent déléguer ça, puisque c'est quand même un boulot. Voilà. Alors peut-être maintenant, quand on est sur des plateformes 100% numériques et qu'on publie quasiment plus qu'en numérique, il y a plus ce côté savoir-faire de comment est-ce que je masterise pour les mettre sur un vinyle, sur une cassette. Surtout à des époques où tu avais les trois standards qui cohabitaient, quoi. Donc là, tu devais forcément passer par un studio qui faisait ça, voire peut-être... cette étape finale, avant d'être pressé, etc., devait être fait par des professionnels. Toi, tu n'as même pas le matos pour pouvoir presser ton vinyle et l'écouter et comparer. Donc, tu devais passer par un professionnel. Peut-être maintenant moins, mais ça peut toujours être une étape ou une connaissance un peu plus facultative. Parce qu'il me semble aussi que certains artistes aiment bien se dire « Écoute, cette étape, je continue ou je vais la déléguer pour avoir une deuxième paire d'oreilles aussi. » sur mon résultat final. Alors, théoriquement, dans le mastering, tu es plus censé toucher à un côté artistique puisque tu te retrouves avec une piste stéréo, donc tu ne peux plus commencer à dire « Ah bah, je vais baisser le kick, oh, tiens, je vais monter le truc, je vais rajouter une reverb. » Ah non, tu ne peux plus, là. Ton morceau, il est close, quoi. Par contre, peut-être que le gars qui va faire le mastering va aussi l'écouter et va se dire « Écoute, il va peut-être te donner un préavis aussi et puis peut-être tu peux encore faire quelques modifs. » Les étapes d'avant. Parce que toi, tes oreilles, elles sont saturées par ce morceau qui a tourné en boucle pendant plusieurs semaines. Et peut-être te l'embellir aussi et rajouter sa touche à lui, puisque certains ingés mastering sont aussi prisés pour la qualité de leur mastering et ce qu'ils vont apporter à un morceau. Il me semble qu'à la masterclass de l'année dernière, je crois que c'était Deep Forest qui nous disait ça, qu'il connaissait un ingé qui, lui, quand il masterise pas l'ensemble du morceau. Il le fait étape par étape, c'est-à-dire qu'il découpe le morceau voilà, en fonction de ses parties, hein, je ne sais pas moi, là, intro, couplet, refrain, etc. Et il va masteriser chacune des parties indépendamment et après recoller le tout. C'est juste ?
Ça me dirait, je ne me rappelle pas, mais c'était une discussion que tu as eue en privé avec lui, je ne sais pas. Mais après, bon, voilà, je crois qu'aussi...
Il y a des méthodes,
chacun a son workflow aussi, je suppose.
C'est ça, ouais. Donc, il y a quand même, c'est pas juste une étape où tu colles, comme dit un limiteur ou un truc, puis tu vas vite fait faire le truc. Il peut y avoir vraiment une étape très importante, en fait, dans ce mastering. Voilà. Donc, on a parlé de nos plugins, on a parlé des services un peu automatiques. Est-ce que j'avais un autre service automatique? Il y avait Lander, mais je crois que j'en avais croisé d'autres.
Même sur SoundCloud, je crois qu'il te le propose aussi maintenant.
Ah, c'est possible, ouais. Je crois que j'avais croisé ça là. Et avant ça, j'en avais croisé un autre aussi, je ne sais plus comment il s'appelle. Et j'étais après, par la suite, tombé sur Lander. Et en fait, la force de Lander, c'est qu'il te proposait au même prix que la concurrence ces services-là. Mais en plus, il te permettait de te distribuer. Donc en fait, dès que tu cherchais un service de mastering, tu tombais sur ces choses-là automatiques. Et Lander te proposait en plus son service de distribution. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui m'avait attiré sur le moment. Mais au final, je n'ai jamais utilisé leur service de mastering. Voilà. Bref. Mais bon, rien ne remplacera pour l'instant encore un mastering humain avec l'expertise, une oreille et puis un peu ce côté, une personnalisation supplémentaire sur certains très bons ingé-sons qui vont te rajouter quelque chose. peut-être rajouter cette patte de oui, bah moi j'étais l'ingé son de Michael Jackson, je sais pas, je vais rajouter un truc. Voilà.
Bah encore une fois, le problème, c'est que l'IA, etc., c'est que c'est traîné sur des modèles. Ils vont analyser, par exemple, 10 000 morceaux de pop, et après, ils vont, si tu détectes ou si tu précises que le morceau, il est pop, bah, il va t'appliquer un genre de profil généraliste. Alors, peut-être qu'il fait des petites détections spécifiques à ton morceau à certains endroits, mais le problème, c'est que ça ne vaut pas une oreille humaine qui va vraiment prendre des décisions pour purement dédiées au morceau aussi. Donc, voilà, est-ce que ce morceau-là, il a vraiment besoin d'être aussi fort ou pas? Alors que l'IA va peut-être se dire, bah voilà, c'est un morceau pop, les morceaux pop ils sonnent aussi fort que ça, donc ce morceau-là il doit sonner aussi fort que ça. Alors qu'un ingé son va peut-être prendre plutôt une décision, ou l'artiste il va prendre une décision, bah oui, je suis conscient que les morceaux ils sonnent aussi fort que ça, dans mon genre, mais pour ce morceau-ci, je pense que c'est bien de garder une certaine dynamique, je vais pas viser un UFS forcément trop élevé. Enfin, je sais pas, c'est un exemple, mais je suis pas convaincu que l'IA effectivement arrivera à. Parce qu'il y a un peu un côté émotionnel aussi de la musique. Donc bon, t'as beau analyser 20 000 morceaux et de voir leur courbe de fréquence, ah oui, ils ont une courbe à cette plage de fréquence-là, en général, c'est à tel niveau, etc. Ils peuvent analyser de manière mathématique certains trucs, mais voilà, le problème, c'est que la musique, ça reste un aspect créatif, même si le mastering, c'est quand même dédié plutôt à respecter certains standards. Il peut peut-être avoir une petite touche de côté artistique sur le niveau du mastering aussi. Donc, malgré tout, je ne pense pas que l'IA est capable de faire ça, en fait. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que l'IA, elle se fera. Si c'est juste pour remettre au niveau son morceau au loudness des autres, parce qu'on ne sait pas le faire, on sait pas le faire autrement et qu'on est débutant, bah, why not ? Pourquoi pas ? Mais bon, après, je pense sur le long terme, ce n'est pas ça qui va t'aider à te démarquer des autres. Quoi. Donc,
alors, au moment où on enregistre ce podcast, l'IA n'en est pas capable. Mais au moment où vous l'écouterez, elle le sera déjà,
voilà.
vu la progression fulgurante.
Petit disclaimer.
Ouais, c'est ça. Il ne faut jamais dire jamais quand il y a IA, parce qu'il va te le faire 5 minutes après.
Non. Ben, peut-être, mais encore une fois, je veux dire, pour moi, c'est tant qu'on n'aura pas inventé une IA qui a une conscience, à mon avis, l'IA elle aura toujours du mal à faire des choix conscients, à faire des choix conscients comme un humain.
En fait, la limitation de l'IA, là, je ne parle pas d'algo. Enfin, on peut parler d'algorithme si tu veux. Mais si on parle d'IA qui doit s'entraîner sur ce qu'il entend ou ce qui s'est passé précédemment pour restituer la même chose par rapport à un set d'entraînement, on rencontre maintenant de plus en plus un souci où l'IA, elle s'empoisonne d'elle-même.
Oui.
Parce qu'en fait, si de plus en plus de morceaux de musique utilisent l'IA pour se générer ou se masteriser ou pour faire quoi que ce soit, l'IA, elle va s'entraîner sur des morceaux qui sont générés elle-même par l'IA. Elle-même n'a pas forcément une qualité très élevée, puisque voilà, elle n'a pas étudié différents principes de musique, elle n'a pas une vraie oreille, donc elle n'a pas pu s'ajuster acoustiquement, on va dire. Et derrière, en fait, certes, maintenant, elle peut proposer une qualité très élevée, on va dire, mais au fur et à mesure du temps qui va passer, elle va pouvoir s'entraîner que sur des musiques générées par elle-même. Enfin, voilà. Bref, vous avez compris le truc. L'idée, c'est qu'elle va s'empoisonner elle-même. À un moment donné, l'IA va devoir prendre des décisions d'elle-même et devoir avoir ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'un ingé son qui prend des décisions, qui va au-delà de la chose et qui va peut-être proposer quelque chose qu'il s'est jamais entendu avant. Peut-être se dire, maintenant, je vais pousser le volume à fond. Peut-être que sur un morceau EDM que j'ai entendu, je vais plus favoriser la dynamique. Tu parlais de l'artiste d'avant qui va des fois mixer avec un DBFS très bas ou des fois très haut, bref. C'est ce genre de décision-là et peut-être il ne faut pas rester dans des standards tellement cloués.
Tu as dit un truc intéressant, après je pense que ça pourra peut-être être un podcast.
Mais je dis toujours des trucs intéressants.
Oui, je ne dis pas le contraire, effectivement. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un podcast dédié sur l'IA ou pas l'IA dans la musique, etc. Maintenant, juste, je voulais rebondir sur un truc que je trouvais très intéressant dans ce que tu viens de dire, effectivement, c'est que l'IA, pour moi, l'IA, elle réagit à un prompt spécifique, à une demande spécifique. Par exemple, si on lui demandait quelle est la norme de l'UFS pour tel genre de loudness, pour tel genre de morceau, elle va peut-être te sortir une réponse correcte. Mais en fait, contrairement à un humain, tu vois, qui va prendre une. Quand un être humain prend une décision, va prendre une décision, c'est à cause d'une série de choses, d'expériences qu'il a vécues, de ses connaissances. Par exemple, un ingé son, il va prendre plusieurs paramètres en compte. Et à faire les bons liens, parce que lui, il a eu de l'expérience, il a mixé d'autres morceaux, il a vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Enfin, il va prendre une décision basée sur ses connaissances. Tandis que l'IA, même si elle peut avoir certaines connaissances quand tu lui poses directement la question, je ne pense pas qu'elle fait le lien entre tout ça quand elle apporte une décision pour faire quelque chose. Je pense qu'elle va juste, par exemple, voilà, elle va se dire, bon, en moyenne, les morceaux pop, ils sont à autant d'LUFS, ce morceau-là, je vais le mettre au même niveau, quoi. Je ne pense pas qu'elle prend différents paramètres en compte parce qu'elle n'agit que sur l'instant donné, en fait. Elle n'agit que sur l'instant donné par rapport à la demande spécifique que tu lui demandes. Elle ne fait pas une décision éclairée, réfléchie, basée sur plusieurs facteurs comme pourrait le faire un être humain, quoi. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui fait que l'IA, elle peut agir un peu bêtement, un peu en mode binaire sur certains trucs, alors qu'un être humain, il va prendre plusieurs décisions où il pourra, ou même avoir des décisions différentes, tester et voir laquelle qui va être mieux. Et c'est un peu moins arbitraire parce que c'est vraiment basé sur une série de choix, d'expériences, de vécu. Et c'est pas juste bêtement, on me demande de monter le loudness. C'est de la pop et les pop en général c'est ça, je le monte bêtement ça. Je crois qu'il y a vraiment, comme je dis, par exemple, il y a la perception artistique que l'IA n'a pas elle-même. Parce que l'IA, par exemple, l'IA ne comprend pas le morceau qu'elle analyse. Elle va juste faire une moyenne, tu vas demander d'analyser le morceau pour avoir le loudness. Elle va faire l'analyse, elle va mesurer de manière mathématique le loudness. Mais elle n'a pas pendant l'écoute, elle n'a pas une perception artistique.
Elle n'a pas une paire d'oreilles, quoi. Oui.
C'est ça. Donc, c'est pour ça que je pense que l'IA, même si voilà, on pourrait être surpris dans ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, en tout cas, à l'heure actuelle, pour moi, dans son modèle actuel, elle va avoir du mal à remplacer un humain, dans tous les cas. Donc, pour moi, encore une fois, c'est un bon point de départ. Ça peut dépanner quand on n'a rien de mieux. Mais je pense que l'IA, de sa conception actuelle, elle ne peut pas... Le jour où on aura une IA consciente qui pourra avoir de l'émotion et pouvoir gérer l'aspect artistique comme un être humain, je pense que là, on pourra s'inquiéter. Bon, après, je crois qu'on pourra s'inquiéter pour d'autres choses que la
donc,
musique.
Donc, ça veut dire qu'au moment où vous écoutez ce podcast, ça sera déjà le cas. Mais oui, après, c'est tout un débat, mais on ne va pas le faire ici. Mais c'est vrai qu'il y a IA et IA, IA plutôt algorithme, et IA, comme on connaît là, les chats GPT, les LMM, etc. Là, je pense qu'actuellement, moi, je n'ai pas vu encore de service qui utilise les LMM pour faire du mastering typiquement. Alors, pour faire de la musique, oui, c'est Suno hein, qui, lui, fait... C'est carrément un LMM qui construit de la musique, etc., donc, de A à Z. Et d'ailleurs, qui fait le mastering derrière, mais je pense qu'en fait, il ne fait même pas de mastering. C'est-à-dire qu'il s'entraîne tellement sur des morceaux déjà masterisés que quand il crache une track, il va te la cracher déjà pré-masterisée.
Suno, c'est pareil. Il génère la musique, mais il ne comprend pas lui-même ce qu'il génère. C'est parce qu'il a été entraîné, il se base sur des probabilités ou autres. Ou sur des choses qu'on pourrait potentiellement attendre.
Et sur de la musique déjà masterisée, quoi. C'est ça que j'entends.
Oui.
Après, ce qu'on a là, les Lander et les Ozone, c'est plutôt des algorithmes qui se sont entraînés ou comme tu disais, ont un petit peu une moyenne de qu'est-ce que c'est un morceau pop et puis il va te faire à peu près. Et d'ailleurs, il va se dire, attends, ta basse, elle est en mono, alors que moi, la majorité de mes tracks, y a un peu de wideness quand même sur le mono. Je vais rajouter un widener. Tu vois, c'est un... Alors que toi, tu veux faire bien, toi, tu veux justement faire en sorte que ton infrabasse ou ta sub-bass, elle est plate le plus possible pour pas que tu te sentes mal quand tu... Voilà. Mais elle, son algo, elle a peut-être été empoisonnée par ce côté. Des tracks qui étaient mal faites et puis qui, voilà, je rajoute... Et on va recevoir... En fait, on a déjà ces problèmes-là autre part que dans la musique, hein, c'est-à-dire dans le texte, etc. On a tellement de blogs qui sont maintenant générés par de l'IA que l'IA, elle va relire ses blogs refaits par ChatGPT. Enfin, voilà.
Ouais.
Donc, on est dans un cycle où elle s'empoisonne elle-même. C'est un peu la merde, mais ça... nous ne sommes pas dans un...
Donc, ça surveille.
Voilà. Bref. Alors, donc, tu parlais déjà avant, effectivement, certaines plateformes... te disent il faut être en moins 14 LUFS, il faut être en moins 9, blablabla. Bref, c'est pas forcément ça qu'il faut viser, c'est juste, mais plutôt viser par rapport à tes écoutes comparatives avec d'autres tracks, te dire écoute, moi j'ai envie de faire de la musique, je sais pas, moi, par exemple dans mon cas je fais de la synthwave, effectivement un des tracks que je compare le plus dans mon AB Meter, ça va être un Kavinsky Nightcall, voilà, ça va être des morceaux comme ça, et ça va être aussi des morceaux de moi que j'ai fait précédemment, dans lequel je veux peut-être être dans les mêmes niveaux ou dans les mêmes dynamiques, etc.
Mmh.
Donc voilà, je compare, plutôt comparé avec d'autres...
Oui, parce que moi ici, donc, par rapport à ce que tu dis avec les plateformes, effectivement, tu as des plateformes qui disent, comme Spotify, moi à partir de moins 14 LUFS, je commence à normaliser, je commence à baisser le volume. Tu as des autres, Apple ou YouTube, ils vont dire, moi c'est à 9, donc... Après, moi, je me suis beaucoup posé la question là-dessus. Donc, effectivement, sur Internet, ça fait des débats passionnés. Tu as des gens qui disent que vu que c'est le target de la plateforme, il faut viser ça. Moi, écoute, je me suis dit, au lieu de regarder, parce que je voyais des gens qui disaient ça, l'avis était un peu mitigé à ce niveau-là sur des forums, etc. Donc, je me suis dit, je vais plutôt regarder ce que font les morceaux, les releases commerciales. Et quand tu regardes les releases commerciales, elles n'ont rien à foutre du LUFS. Des plateformes, c'est comme tu vois, ça, comme tu as dit, ça n'empêche pas d'avoir des morceaux à moins 3 ou moins 6 LUFS. C'est juste, en fait, moi, je pense que les plateformes, elles essaient de normaliser un peu pour ne pas avoir trop d'écart non plus les morceaux pour que l'expérience de l'auditeur.
De l'utilisateur, oui.
Mais je pense que, voilà, ils te donnent leur fonctionnement par transparence, mais pour moi, je pense que tu ne dois pas forcément viser ça, parce que de toute façon, voilà, comme on avait discuté en privé, vite fait, le problème, c'est que de toute façon, déjà, les plateformes, elles n'ont pas les mêmes normes entre elles. Donc, ça voudrait dire, si tu veux viser le plateforme, après, bon, je connais ton contre-argument là-dessus, mais je veux dire, par exemple, si tu voulais vraiment faire bien les choses, il faudrait, par exemple, vu qu'Apple Music va normaliser à tel niveau, YouTube à tel niveau, Spotify à tel niveau, ça veut dire qu'il va falloir faire des masters différents, etc. Alors que non, tu fais un master et t'envoies à toutes les plateformes, quoi. Tu commences pas, il y a tellement de plateformes au monde, tu peux pas commencer à faire un master par plateforme, quoi. Il y en a des centaines. Bon, même si tout le monde connaît surtout Apple Music, YouTube ou Amazon ou Spotify, mais il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres, des plateformes. Mmh. C'est incroyable. Donc, du coup, je pense que c'est plutôt... Toi, tu fais ton business. En plus, sachant que de toute façon, le problème, c'est qu'il y a un autre truc que j'ai pensé entre-temps. C'est que oui, même si tu dis, par exemple, moi, je suis principalement sur Spotify, donc je vais m'adapter à Spotify. Ça peut être un argument logique, mais je me dis, le problème, c'est que Spotify peut très bien changer sa norme de toute façon. Dans 6 mois, ils vont changer sa norme. Donc, pour moi, c'est juste qu'eux, ils transmettent de l'information, donc par souci de transparence, pour pas que les gens s'étonnent. Pourquoi est-ce que mon morceau sonne moins fort une fois qu'il est sur la plateforme? Ils ont certainement dû avoir la question. Mais je pense que voilà, ça, c'est leur business à eux, la normalisation. Et nous, notre business à nous, c'est de sortir le morceau. Parce que quand tu le joueras en club ou quand tu le distribues en téléchargement direct sur Beatport ou si tu fais un vinyle, tu vas le masteriser avec ton niveau de loudness que tu veux. Tu t'en fous de la plateforme, puisque de toute façon, là, on est hors contexte. La plateforme n'intervient pas dans le téléchargement direct, n'intervient pas sur le vinyle. Et encore une fois, à moins d'avoir des trucs spécifiques comme tu veux sortir en vinyle, bon, en général, tu ne t'amuses pas à faire 5-6 masters différents non plus. Donc, du coup, pour moi, tu fais le master au loudness que tu veux. Et après, ben, la plateforme, elle gère ça de son côté. De toute façon, ça risque de changer. Donc. Voilà, ça c'est. Moi, je dis. Moi, pour moi, en tout cas, je ne dis pas que la science infuse, mais je me suis documenté. Puis, vu que j'ai vu que de toute façon, bah, les autres, les stars, elles s'en foutent, bah, je me suis dit, je m'en foutre aussi. De toute façon, ça va changer. Donc, moi, je fais mon loudness comme je veux. Puis, si la plateforme, ça l'amuse à normaliser, bah, qu'elle le fasse. Mais bon, moi, je veux dire, si je joue mon morceau en club ou les gens qui achètent en direct mon morceau, bah, ils auront l'expérience voulue avec le loudness que j'ai voulu, quoi. Et puis pour Spotify, bah voilà. En plus, de toute façon, Spotify, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont conscients de cette fonction-là, c'est comme sur YouTube Music aussi, et ils désactivent la normalisation parce que justement, ils ont envie d'entendre les morceaux avec le loudness qui a été décidé et la dynamique qui a été décidée et pas avoir cette fameuse normalisation. Donc en plus, c'est une option que tu peux désactiver et il y a des utilisateurs qui la désactivent aussi. Donc c'est pour ça que moi, au final, je me dis, je m'en fous un peu.
Moi, en 2025, j'ai décidé d'éditer mes musiques en MIDI. Comme ça, chacun peut mettre les instruments qu'il veut.
Ah, ça, c'est bien, ça.
Comme ça, tu peux l'écouter au niveau que tu as envie. Bon, ça sera un peu cheapo, ça, hein, si tu as une carte MIDI de merde. Mais voilà, c'est ouais, années 90 PC MIDI. C'est super. Voilà. Ouais, ça va devenir la mode, ça, je vois ça. Bref, ouais, OK, bah, merci pour l'input. Il y a aussi... un contexte, en tout cas une étape ultra importante, en tout cas que moi je fais, je pense toi aussi, qui est dans cette étape de mastering, quand tu te dis « Oh, je suis satisfait avec ce master, il sonne à mes oreilles, oui. Je touche plus à rien et je publie. »
Non.
Erreur.
Oui. Ah oui.
L'erreur, c'est surtout de se dire « Oh, mais super enceinte, Adam Audio, je sais pas quoi. » Ah, c'est super, ouais. Mais dans ta voiture, là, tu sais, avec la fenêtre ouverte sur l'autoroute, comment ça sonne comment? Et dans tes AirPods, là, ou ton beat audio, comment ça s'appelle, là, les trucs avec plein de basses, là, où pour rendre le casque plus lourd, ils mettent des bouts de métal dedans, là. Ah. Où t'as un boombox stéréo mono, qui est censé faire du stéréo, mais qui en fait pas. Ben voilà, en fait, j'ai un peu dit, en donnant tous ces exemples, c'est que ton master, faut pas que l'écouter dans le contexte de la plateforme de streaming,
ouais.
Et aussi l'écouter dans le contexte de ben, où est-ce qu'elle va être entendue.
C'est ça.
Et c'est souvent là que j'ai... Là, j'ai toujours eu des surprises. Là,
oui. C'est toujours... Ah bah oui, c'est le but, hein. C'est le but.
Ouais, ouais. Là, c'est ultra équilibré, c'est nickel. Et paf, tu l'écoutes sur... Ah, j'ai des belles enceintes multi-room chez moi. Et en fait, même mon track sur ces enceintes multi-room, qui sont à la fois dans ma salle de bain, ma chambre à coucher, sur mon balcon, sur une grosse enceinte avec un gros caisson de basse dans mon salon, aussi sur un kit un peu plus analogique aussi. Ma femme utilise ce kit analogique pour les vinyles, justement. Et puis, je lui ai mis une petite connexion Wi-Fi dessus. Et en fait, je peux aussi balancer là-dessus. Et j'ai vraiment tous ces contextes. C'est-à-dire haute qualité, basse qualité, salle de bain, voilà. Et je balance ça. Et là tu les entends, ces basses qui tournent partout. Tu les entends ou tu les entends pas, ces leads effacés. Voilà. Et c'est là où tu vas te dire, ah mince, ouais, là, il faut que j'ajuste des choses. Alors, normalement, si tu as un bon mix, bah, tu n'es pas censé avoir tout ça. Des fois, je fais quand même de l'écoute comparative dans la phase mix aussi, un petit peu.
Oui, moi aussi.
Pour être sûr, voilà.
Moi, je le fais deux étapes.
Vraiment, voilà, c'est... Mais c'est aussi dans la phase mastering où tu peux avoir un peu la situation finale. Et bien sûr, en général, ce que je fais, c'est que j'exporte, je mets sur mon téléphone, ou je mets sur... j'ai YouTube Music. Et YouTube Music, tu peux... Alors, je sais pas si les autres plateformes le font aussi. Mais en tout cas, YouTube Music, tu peux mettre ta musique personnelle, ton fichier MP3.
Spotify, Apple Music, tu peux, oui.
Voilà. Tu peux glisser ta track dedans et il n'y a que toi qui pourras l'entendre, mais elle sera dans le contexte de la plateforme. Et après, tu peux l'écouter. Je l'écoute régulièrement. Dès que je vais dans ma voiture, je fais un petit play et puis je regarde comment ça sonne dans mon casque audio, voilà, un peu partout. Donc ça, c'est un peu l'étape. Toi aussi, hein, tu fais ça.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est une étape importante, surtout quand on n'est pas ingénieur du son et qu'on n'est pas sûr à 100%. Parce que c'est le fait d'écouter dans un autre contexte. Donc, comme tu dis, quand on a des super bonnes enceintes, puis après, on repasse sur des écouteurs à 10 €, tu as des éléments qui peuvent peut-être disparaître et que tu ne te rends pas compte. Ou inversement, comme tu dis, tu écoutes sur des enceintes qui ont les basses. Parce que nous, quand on compose, on fait du mixage mastering, on a des enceintes prévues pour avoir un son neutre. Parce que le but, c'est justement d'avoir le son neutre pour prendre des décisions neutres. Quand tu repasses sur des trucs, des systèmes où les basses sont bien amplifiées, parce que bon, l'auditeur, c'est pas la même chose qu'un studio, il veut entendre des bonnes basses, etc. Bah, ça peut peut-être, en remontant le volume, bah, ça peut peut-être mettre en évidence des problèmes qu'il y a à la basse que tu n'aurais pas entendu sur tes enceintes normales. Donc du coup, oui, c'est important de double check, de faire une comparaison dans la voiture, sur les écouteurs, à 10 balles. Voilà, pour voir si le mix, comme on dit, le mastering se traduit bien sur de l'équipement consumer. Donc, ouais. Parce que, voilà.
Alors, maintenant, si je suis en voyage et que je n'ai pas accès à mes boombox, que je n'ai pas accès à ma voiture et que je veux quand même finaliser le morceau, il y a quelques solutions software. Alors, j'en connais une que j'utilise moi. C'est le Sound ID Reference que toi, tu as aussi, hein, il me semble.
Oui, mais je ne l'utilise pas pour ça.
Tu ne l'utilises pas pour ça. Alors, moi, je l'utilise parce que, en fait, mes enceintes Adam Audio, elles permettent de... Elles ont une fonctionnalité DSP qui permet, en fait, de calibrer mes enceintes en fonction de ma pièce pour qu'elles ont le son neutre même dans la pièce. Et j'ai eu besoin juste d'une fois de calibrer le Sound ID Reference et après d'envoyer le fichier dans mes enceintes. Et maintenant, je n'y touche plus. Je n'ai plus besoin du Sound ID Reference. Par contre, je m'en sers des fois encore pour mon casque. Quand j'utilise le casque, j'utilise Sound ID Reference qui s'adapte à mon casque. Et ce Sound ID Reference qui est sous forme d'un plugin ou d'un programme que tu démarres sur ton PC qui va remplacer ton son ou en bout de chaîne justement dans ton master pour compenser ton son et puis l'ajuster, il permet de générer des contextes genre dans ta voiture, AirPod, Boombox, je sais pas quoi, Beat Audio, tout ça. Et il te permet de générer ça dans ton casque.
Alors moi, j'ai un avis là-dessus.
Ouais.
Moi, je trouve que ça a le mérite d'exister si vraiment tu n'as pas d'autres moyens de faire. OK.
C'est ça.
Mais bon, quand tu regardes en général, j'en ai déjà vu aussi des plugins qui permettent de simuler. Mais en fait, quand tu regardes dans le fonctionnement, etc., c'est souvent juste un EQ pratiquement. Et en plus, tu n'as pas tout le ressenti que tu as quand tu es vraiment dans la voiture, etc., tu vois, avec l'acoustique de la voiture ou autre. Oui. Donc, du coup, je trouve que ça a le mérite d'exister pour dépanner. Mais moi, ici, je pense que la meilleure solution, parce que je me suis déjà posé la question aussi. Écoute, si j'ai mon master, écoute, j'attends d'être chez moi avec mon matériel pour le faire correctement. Donc, vraiment, si tu as une contrainte et je sais pas, que tu n'as vraiment pas d'autre solution, ça a le mérite d'exister. Mais je pense qu'il vaut mieux que ça ne reflète pas parfaitement la réalité que quand tu fais vraiment le test dans la vraie condition, puisque c'est le but au final. Parce que bon, si tu simules une condition, enfin, tu vois, c'est un peu bizarre.
Oui, donc, oui, voilà. Mais voilà.
Ça a le mérite d'exister. Voilà.
Exactement. C'est comme le mastering automatique de Lander, ça a le mérite d'exister.
C'est ça, voilà. Bah, mais petit disclaimer
c'est
de mon
mieux
côté.
Que ne pas le faire. Voilà, j'entends. Un autre truc, alors là, on va à l'autre opposé, c'est-à-dire que dans les studios, les vrais studios professionnels, souvent, ça se matérialise d'une autre manière. C'est que, bon, bah, moi, sur mon studio home studio, j'ai une paire d'enceintes et un casque, mais dans des home studios, où ils sont dans ces phases-là, souvent, ils ont plusieurs paires d'enceintes collées au mur, à différentes hauteurs, à différentes tailles, avec peut-être plus de basses. Et ils ont un petit canapé à l'arrière ou alors différentes positions où tu peux te placer dans le studio pour l'écouter d'une autre manière. Et certains ont aussi des enceintes, même collées l'un à côté de l'autre, de différentes marques, pour pouvoir l'écouter dans ces différents contextes-là, pour être sûr de ne pas avoir manqué un truc.
Ah, ça, c'est
même des enceintes pourries, en fait, exprès. Voilà, pour être dans ces contextes-là. Parce que dans un studio, c'est cool, tu peux écouter dans des conditions de merde, mais tu as malheureusement heureusement pour le studio, un super traitement acoustique qui fera tout de même que tu ne seras quand même pas dans le contexte du gars dans sa salle de bain. Voilà. Mais le conseil, pareil, hein, moi, ce que je dis, c'est... Moi, j'ai déjà utilisé les plugins, on a des références pour imiter une voiture, mais après, je suis allé dans ma voiture, en vrai. Là, j'ai compris d'autres trucs, quoi. Donc, voilà. Après, ça dépend de ta voiture, hein. Si c'est une Peugeot 205...
Oui, de toute façon, tu ne pourras jamais vérifier dans tous les contextes du monde, mais voilà, vérifier un peu. Bon, voilà, je pense que tu couvres déjà pas mal dans la voiture, tes écouteurs à 10 balles sur le haut-parleur de ton téléphone, et peut-être après des enceintes, une enceinte Bluetooth traditionnelle... Et en plus de ton master dans ton studio, je pense que quand tu as déjà fait 4-5 vérifications, c'est déjà pas mal. Tu couvres déjà une grosse partie, je pense. Après, il y a toujours moyen d'aller le plus loin possible. Mais bon, si tu veux commencer à vérifier, c'est vrai qu'effectivement, dans l'idéal, tu irais commencer à tester dans l'acoustique de chacune des voitures. Mais bon, là, c'est pas possible.
Voilà. Donc,
ou alors, il y a des fous furieux qui sont peut-être déterminés à le faire. Hein, je sais pas, mais...
Ouais. En tout cas, moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le mastering. Ça, c'est une chose. J'ai beaucoup appris avec toi. Je crois qu'Azekeno a beaucoup d'expérience là-dessus aussi. Mmh. Et j'ai hâte d'avoir un petit peu ses retours là-dessus. On aurait bien aimé l'inviter là, mais c'est malheureusement...
C'est surtout le loudness et le clipping.
Ouais.
Pas forcément le mastering en entier, si je dis pas de bêtises, mais c'est surtout le loudness et le clipping qu'il a beaucoup étudié en premier.
Ah, d'accord. Ouais. Ça marche. Puis je...
Bah, c'est vrai que son propre...
Ouais, après, moi, d'ici le mois de septembre, je serai un professionnel accompli.
C'est ça, voilà.
Non, bref. Je vais juste donner mon objectif à moi, en tout cas, de pourquoi est-ce que je tiens tellement à pouvoir faire mes propres masterings. Peut-être tu donneras ton avis aussi. En tout cas, pour moi, l'idée, c'est effectivement, si tu es un artiste qui trouve un label, qui trouve une équipe ou qui a un pote qui fait ça très, très bien dans son coin, pourquoi pas? Moi, j'ai pas d'amis. Je plaisante. Non, j'ai envie de le faire moi-même pour être un artiste 100%, en tout cas complet. Voilà, je veux être un producteur complet. Je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver. Est-ce que l'avenir va faire de moi un musicien? Est-ce que l'artiste, le futur va faire de moi plutôt un DJ ou un mec qui va faire semblant de faire de la musique sur scène, hein, voilà, et puis qui va avoir des ghostwriters derrière et puis qui va avoir des ingé sons qui vont faire le mix? Ou est-ce que je vais être un mixeur, plutôt un ingé son qui va faire du mix mastering? Je ne sais pas. En tout cas, si je connais toutes ces étapes-là, déjà, j'acquiers une certaine crédibilité, hein, puisque je sais faire de la musique, je sais faire du mastering, etc. Et je peux aussi prétendre à être un artiste complètement indépendant. Je n'ai pas besoin de donner une partie de mes revenus à quelqu'un d'autre. Pas besoin de payer un ingé son, etc. Et ça me plaît plutôt bien. Je ne sais pas si c'est réaliste dans le temps de me dire que je pourrais toujours être 100% autonome et gérer 100% de mes revenus. L'avenir me le dira. Mais en tout cas, c'est pour ça que je tiens aussi. C'est pour moi, c'est une étape pénible. Hein, le mixing mastering, ce n'est pas l'étape la plus rigolote à faire. Parce qu'une fois que tu as fait ton morceau et tu es super contente à jouer avec tes instruments, il y a le côté, il faut corriger toutes tes conneries que tu as fait avant. Il faut que ça sonne bien, etc. Il faut écouter dans ta voiture et tout. C'est les phases les plus fun.
Non, mais il faut se laisser prendre au jeu. Le mix peut être créatif aussi. Hein.
Il y a, voilà, en fait, c'est comme ça que je me suis... Bah, je crois qu'on en a parlé au dernier podcast, où je disais, en fait, j'essaie de créer une phase un peu rigolote dans ces phases-là. Toi, c'était quand tu enlèves le mono et puis pouf, ça s'ouvre d'un coup. Voilà, donc j'essaie quand même d'être un artiste complet. Peut-être dans le temps, je tiendrai. Peut-être dans le temps, je déléguerai. Peut-être c'est même la composition musicale que je déléguerai, comme je disais avant, qu'un ghostwriter, etc. Mais ça, c'est un peu... C'est pour ça que moi, en tant que producteur, je tiens aussi à ce que ces étapes, je puisse les faire comme un artisan, tu vois, devant son chevalet ou devant sa table de menuisier en train de ciseler son bois.
Bah, y en a plein. Bah voilà, pour moi, j'en vois plein des raisons. C'est qu'il y a ça, comme tu dis, pour dire avoir la fierté de l'avoir fait soi-même, pour être autonome. Question de budget aussi, parce que tout le monde ne peut pas se payer un ingé son pour faire son mastering. Bon, après, tu as des gens qui proposent de faire des masterings à 20 balles sur Fever, mais bon, faut voir ce que ça vaut.
Donc, ils utilisent Lander derrière.
Bah oui, c'est ça, ils me disent pas juste en coup d'ozone, et peut-être qu'ils font deux, trois petits réglages, et voilà. Bah, il y a la curiosité. Moi, c'est mon cas, en tout cas, c'est... Voilà, c'est ce que ça m'intéresse d'apprendre. Bon, même si, comme tu dis, c'est vrai qu'on est moins dans le créatif, parce que c'est plus, on est plus dans la composition, on cherche une sonorité, etc. Bah, moi, tout ce qui est avec des boutons, ça m'intéresse. Donc, du coup, même si c'est pas de la composition, il n'y a pas l'aspect artistique, forcément, bah, ça m'intéresse de comprendre. Et puis, je trouve ça intéressant aussi, parce que même si à la fin, tu finis, parce que le problème, c'est qu'on peut pas être excellent partout. Donc, même si à la fin, on finira peut-être un jour à avoir un ingé son à qui on lui donnera notre track, je pense que c'est bien, ne fût-ce que pouvoir discuter avec l'ingé son, tu vois, de dire je veux plus de clarté, plus de trucs, enfin, je sais pas. Tu vois, je trouve que c'est bien d'avoir une expérience là-dedans pour savoir de quoi en parler. Et puis après, comme j'ai dit aussi, c'est pour vis-à-vis de la concurrence, tu vois, c'est un peu pour être au niveau aussi. Même si j'ai pas un mastering parfait parce que je suis pas un ingénieur du son, j'essaie d'avoir des masterings plus, enfin, qui sont au moins corrects, quoi. Donc, au moins, je ne suis pas trop à la traîne par rapport à ceux qui ont d'autres masterings corrects, quoi. Parce que sinon, c'est un point de désavantage comparé aux autres. Même si ce n'est peut-être pas aussi important que la composition, en gros, c'est un point que ça peut jouer. Donc, oui, il y en a plein des raisons pour faire son mastering soi-même. Donc, même si à la fin, peut-être qu'un jour, parce que vu qu'encore une fois, on ne peut pas être parfait dans tout. Bon, il y a des artistes qui arrivent à, comme Didmos ou autres, ils gèrent eux-mêmes leur mastering. Mais voilà, pour certains, on ne peut pas être excellent dans tout. On n'est pas forcément un ingénieur du son. Donc voilà. Mais il y a plein de raisons pour le faire soi-même. Maintenant, c'est propre à chacun. Moi, c'est ça peut être tout. C'est la concurrence, la curiosité, le fait de la fierté de dire je l'ai fait moi-même. Voilà, c'est le fait de pouvoir me dire que plus tard, je pourrais, si besoin, je pourrais en discuter avec un ingé son. Vis-à-vis d'un label, pour montrer que je suis quand même un peu indépendant et autonome, le budget. Donc voilà, il y a toutes ces raisons-là, en fait.
Ok. Ouais, et puis si un jour tu délègues, tu pourras aussi, comme tu dis, discuter avec l'ingé en question, mais aussi peut-être...
Donner des directives.
Déjà ça, et puis voir si derrière il n'a pas utilisé un système automatique en disant « Mais attends, qu'est-ce qu'il m'a foutu le gars ?» Berner, on va dire, par ce service-là. Puis voilà, et puis maîtriser la qualité de bout en bout, hein, comme, je sais pas moi, un chef cuistot, au bout d'un moment, il fait peut-être moins de cuisine, hein. Il va peut-être plus gérer sa cuisine, mais moins cuisiner. Bah, s'il n'a jamais appris à cuisiner avant, bah, comment tu veux qu'il puisse dire au commis de cuisine « Mais t'as fait de la merde, là ?»
Exact.
qu'est-ce que c'est ce plat qui sort, là ? Voilà, bref, donc être un artiste complet, et ça, c'est ce qu'on tend à vouloir être, toi et moi, et peut-être tous les membres du collectif Music We Trust, qui grandit un petit peu toutes les semaines, tous les mois, on espère. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Putain, je ne pensais pas qu'on allait faire une heure et demie de discussion autour du mastering. Je pensais que c'était un petit sujet, mais finalement...
Ah, c'est quand même une étape qui peut avoir son importance. Hein. Et de toute façon, pour ce sujet, si tu commences à creuser un peu, il y a quand même de quoi.
Kaze Keno, lui, voulait faire un triptyque trois épisodes. Mais il en avait plus sous le coude à raconter. Il a aussi suivi une grosse formation derrière. Il avait bien creusé le sujet et effectivement, c'est des formations qui peuvent prendre du temps.
C'est vrai que ce que j'ai dit au clip par rapport au clipping et au loudness, c'est peut-être plus d'actualité parce que c'est vrai qu'il est encore en train de faire des formations la semaine dernière. Donc, donc voilà, ça se trouve, il est plus calé que nous deux maintenant.
Ah oui. Et puis, je vais faire une formation de 10 jours. Donc 10
et puis,
jours,
ce sera toi qui vas te plus calé.
Mastering. Alors, je ne sais pas. Mais disons, ça tient sur 10 jours, une formation mixing mastering. Donc,
ouais, mais
c'est pas quand même... une heure de mastering, je pense pas. Donc, voilà.
Et puis après, quand t'as le...
Je sais pas dans quel état elles seront. Hein.
Ouais, ils vont être prévus pour. En plus, ça va être avec Leroy, t'auras des ingé-sons assez réputés, donc bon, je pense que ça va bien t'aider.
Je vais lui piquer ses oreilles, allez. Très bien. Ben, en fait, on va s'arrêter là, je pense, pour cet épisode.
Oui.
Merci de nous avoir écoutés. L'INVI, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Donc, sur mon site linvi.com, donc LYNVY.com, l'INVI. Et alors, vous avez tous mes liens sur les réseaux sociaux, les plateformes pour écouter, la liste, ma discographie, donc avec les derniers morceaux. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver là-dessus. Et toi ?
Alors, moi, c'est sur MWTprod.com. Voilà, tu trouveras tout là-dessus aussi. Les playlists, je travaille beaucoup sur les playlists Spotify en ce moment. Donc, si vous ne savez pas quoi écouter, j'ai créé 5 belles playlists. Voilà, avec dans l'électro, hein, ça c'est. De toute façon, hein, je ne vais pas dévier de notre passion première qui est l'électro. Donc, 5 playlists électro à liker et puis à écouter cet été au bord de la plage. Voilà, pas de souci.
Et soumettre les sons via ce Meetup si vous êtes compositeur.
Oui, je suis sur Submeetup, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Donc c'est MWT, à Music with Russ, je crois qu'on s'appelle, hein, sur Submeetup.
Ouais.
Voilà, si vous voulez qu'on écoute votre track avec nos super oreilles et puis qu'on vous donne un avis dessus, il n'y a pas de souci. Et puis, ben voilà, il y a tous mes liens, Spotify, Insta, etc. Pour ce podcast que si vous l'écoutez, vous savez où le trouver, mais on est sur à peu près pas mal de plateformes, hein, je crois Spotify, on est sur... Moi, j'écoute sur Podcast Addict. Toi, tu l'écoutes sur quoi, de nouveau, podcast ?
Je crois que c'est Pocket Cast, je crois, que j'utilise, moi.
D'accord. Et puis, il y a Apple Podcast, bien entendu. On a des flux RSS, donc ils sont un peu disponibles partout. YouTube aussi, on publie le podcast sur YouTube, donc avec une petite vidéo alibi. Donc, vous pouvez nous écouter là-dessus. Mettez-nous un like, une petite remarque aussi, si vous avez des choses à nous dire, des choses à corriger. Volontiers, on fait des erratum, il n'y a pas de problème. Et ça nous fait un gros coup de boost. Pour l'instant, on n'a pas de monétisation ou quoi que ce soit. Hein. C'est open bar, gratuit, même pas de Patreon, je crois, rien du tout.
Ouais, si, Buy Me a Coffee. On est sur Buy Me a Coffee, si vous voulez.
Je suis bien souvenu.
On en a fait un pour le podcast. Donc, si vous voulez nous soutenir avec un petit café par mois, un petit 2 euros par mois. Bah.
C'est vrai. Je l'avais mis dans les commentaires, c'est vrai. Je vérifie, mais sinon, regardez dans les commentaires, je le mettrai. Je m'en souviens même plus. Baymien, voilà. Un petit... Alors moi, je prends du thé vert, s'il vous plaît. Merci.
Le lien est sur entredenotes.com.
Entredenotes.com, exactement. Donc voilà, il ne reste plus qu'à dire à très vite.
Hein. Et oui, merci à tous.
Merci à tous de nous écouter. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode, très certainement sur la publication... la distribution de musique. Et il ne reste plus qu'à nous dire au revoir.
Au revoir, à bientôt.
Ciao, ciao.